Europe 1.
Aujourd'hui, un salarié sur trois déclare avoir été victime de harcèlement au travail. Les plus touchés par cette situation sont en majorité les jeunes employés, mais aussi les femmes. Remarques sexistes, harcèlement moral ou sexuel, leur emploi a transformé leur vie en un véritable enfer. Face à ces violences, certaines employées ont trouvé le courage de parler et parfois même de déposer plainte au risque de perdre leur travail. Comment dénoncer un harceleur parfois très haut placé ? Comment affronter sa hiérarchie et comment se relever après ces violences ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire d'Amandine. Elle a porté plainte pour agression sexuelle contre une personnalité très influente. Une action qui a permis à d'autres femmes, elles aussi victimes du même homme, de prendre la parole. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. Amandine a eu toute jeune la vocation de travailler dans le domaine du vin. Avant de refaire sa vie ici, près de Mâcon, elle a eu la chance de démarrer sa carrière dans une prestigieuse cave parisienne. Un rêve qui s'est pourtant transformé en réel cauchemar.
Amandine, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Pas trop mal.
Pas trop mal, hein ? Là, on...
Il y a tout, hein. Tout ce qu'il faut ici pour être heureux.
Au cœur de la Bourgogne.
Exactement.
Pour une ex-parisienne, on dit, ou une ex-Île-de-France.
On peut le dire.
Hein.
Ex-parisienne.
Rive gauche.
À 21 ans, après l'obtention d'un BTS en commerce des vins et spiritueux, Amandine décroche un stage dans l'une des plus anciennes et réputées caves de Paris. Une cave représentée alors par une figure du milieu. Une personnalité médiatique et influente contre qui Amandine a pourtant trouvé le courage de porter plainte malgré les menaces répétées dont elle faisait l'objet.
Il disait « De toute façon, où que tu ailles, je te retrouverai, je bousillerai ta carrière. Tu n'auras plus rien, tu n'es plus rien sans moi. » Donc c'est vraiment ça qui me faisait peur. C'est du harcèlement qui fait en sorte que vous perdez tout. Vous savez plus ce qui est vrai, ce qui est la réalité ou non la réalité. Donc vous êtes emprisonné et vous pouvez plus ressortir.
Alors cette personne, nous n'allons pas la nommer, ainsi que cette fameuse grande maison, parce que vous en avez décidé ainsi. Hein.
Parce que ça touche d'autres personnes, malheureusement, qui sont pour rien.
Après ce stage, l'homme propose un CDD à Amandine. Les clients de cette cave sont des PDG de grandes entreprises, des gens du show business ou des ambassades. Et auprès de son mentor, Amandine apprend son métier avec passion. Pourtant, elle découvre un univers où le langage et les relations sont très, très particuliers.
Il me disait, c'est un milieu cru, c'est normal, on n'est pas chez des avocats, c'est du terroir, il faut y aller.
Vous dites que tout tournait autour du sexe et de l'argent.
Ah oui, oui. Ouais. C'est le cul, le vin et le pognon, rien d'autre. Il disait au début, Amandine, il faudrait vraiment que tu apprennes ce que c'est la vraie vie, être une vraie femme, parce que là, t'es toute timide. Par exemple, il disait, est-ce que t'aimes la levrette ? Mais moi, je peux pas répondre à ces questions. Mais pour lui, c'était banal. Alors au début, j'étais hyper choquée, mais c'est vrai qu'après, tout le monde... en riaient et que ça leur paraissait normal. Bon, je me suis dit, c'est un peu bizarre, mais c'est la coutume.
Est-ce que dans ces premiers mois de votre CDD, vous vous apercevez que votre patron, il a un problème avec les femmes, avec le sexe avec,
Pas encore.
Non.
Je pense que j'étais un petit peu naïve à cette époque. Comme j'étais très jeune, je pense que j'étais un petit peu naïve.
À la fin de ce premier contrat, Amandine se voit proposer un poste d'assistante commerciale en CDI. La jeune femme accepte ravie de pouvoir continuer à travailler dans cette cave et de partager le bureau de ce professionnel de renom.
C'est très agréable cette petite terrasse-là.
Mais l'été c'est tellement mieux. Hein. Le soir c'est superbe, il y a des fleurs partout, c'est décoré.
Pourtant, environ 3 mois après, le comportement de son patron commence à changer. Les blagues graveleuses se transforment en remarques gênantes et insistantes sur le physique d'Amandine. et la jeune femme découvre un homme menaçant, colérique et manipulateur, dont les demandes sont de plus en plus précises.
Ça a commencé par les massages.
Les massages.
Ouais. Le soir, souvent, il me disait « Amandine, il faut qu'on avance, on est très en retard, donc on va rester bosser ». Il attendait que tout le monde, tous les employés soient partis et il fermait la cave à clé. Donc je me retrouvais enfermée avec lui. Et là, « Amandine, il faut que tu me masses, sinon je vais pas bien travailler. Et puis, ça me met en colère, je serai pas bien ». Donc, je lui disais, Monsieur X, c'est pas à moi de faire ça. Il me disait, oh, fais pas chier, ça dure que 2 minutes.
Fais pas chier, donc, c'était...
Courant.
Courant.
Oh, oui, donc je commençais à le masser. Donc, au début, 2 minutes. Une fois par semaine. Ensuite, ça s'en formait en 10 minutes. 2-3 fois par semaine, enfin... Toujours en crescendo. Ensuite, au bout de 10 minutes, je dis ça y est, c'est fait. Ah bah recommence. Et après, c'était de pire en pire parce que il me disait que je massais pas bien, donc que j'étais trop coincée. Donc il m'imposait à ce que lui il me masse pour me montrer comment il fallait faire pour masser. Donc moi, j'avais absolument pas envie qu'il me masse, mais j'étais obligée. Parce que plus je résistais, plus il s'énervait.
Et donc, vous aviez peur de lui
Ah ouais, j'avais très très peur de lui. Ouais. Parce que bon, faut le voir dans ses colères. Je me suis dit, il va m'étrangler. Il a tellement une force, tellement un corps de rugby.
Oui, c'est un ancien rugbyman. Hein,
un ancien rugbyman, ouais.
Il est très.
Mais il doit faire dans les 110-120 kilos, hein, au moins. Et le pire, c'est. Il me disait, mais ton corps, t'es tellement tendu, ça va pas, t'es stressé, je vais te montrer comment c'est un massage. Mais il me tripotait, il essayait de passer entre mes seins en faisant exprès de faire en sorte que son corps soit collé au mien ou alors que son sexe soit collé à mes fesses, quoi.
Ouais.
Il me caressait les fesses, je veux voir ton soutif, t'as mis quoi aujourd'hui? Donc carrément, il me soulevait mon pull, me tirait mon pull pour regarder. Et puis dès que je faisais une moindre petite réflexion où j'étais pas d'accord, bah si t'es pas contente, tu connais la porte, tout droit pour aller à la NPU. Il y en a plein qui rêveraient d'avoir ton poste. Donc à chaque fois, il me le disait. Quand il voyait qu'il y a quelqu'un qui m'attendait pour venir me chercher, comme j'essayais de trouver des solutions, eh ben, il attendra. Je te laisse pas partir. Ou alors, il voulait carrément s'incruster à mes soirées. Je dis, oui, ben, c'est ma vie privée. Il disait, non, ici, il n'y a pas de vie privée, tu m'appartiens, je veux tout savoir. Il m'envoyait des textos, hein, des pas d'heure, hein, pour qu'il attendait que je lui réponde. Hein. Quand je répondais pas, bah, il s'énervait.
Vous étiez sous son contrôle, en fait.
Oui, j'étais sa chose. Il me rappelait à chaque fois, tu me dois tout, je t'ai tout donné, je t'ai tout apporté. Il me le rappelait tout le temps.
Dans quel état psychologique vous trouviez là, au pic de ce harcèlement quotidien, hein, puisque c'était devenu
quotidien.
J'avais
la boule au ventre. J'avais aucune confiance en moi. Vraiment, dans ma tête, tellement que j'avais peur, au pic, c'était soit je vais me laisser faire, tant pis, eh ben, je vais subir, soit je pars. Mais comme il disait à chaque fois, de toute façon, je connais tout le monde, tu iras nulle part, j'ai les meilleurs avocats, j'étais coincée.
À cette perte d'estime de soi s'ajoute la honte. Amandine ne parle à personne de ce qu'elle subit, sauf à son compagnon de l'époque, à qui elle ose finalement se confier. C'est lui qui va la convaincre de porter plainte, après un nouvel épisode où son patron dépasse les bornes en public.
J'étais en train de travailler avec lui, il recevait un fournisseur. Et devant lui... Il m'a dit, Amandine, je veux que tu détaches tes cheveux. Je lui dis non. Il me dit, comment ça? Je t'ai ordonné de détacher les cheveux, tu détaches tes cheveux. Je dis non, je veux pas. Il m'arrache mon élastique. Donc moi, je le récupère, il commence à s'énerver, à m'insulter. et devant tout le monde. Devant tout le monde. Donc je dis rien, je commence à en parler à mon assistante comptable. Je lui dis, là, c'est plus possible, je vais porter plainte. Et elle me dit, toi, Amandine, tu peux le faire. Moi, je peux pas. J'ai ma maison à payer, je peux pas perdre mon boulot, j'ai mon fils. Mais si tu veux, je t'accompagnerai. Donc je fais ma plainte. Et l'assistante était là, elle m'a attendue, elle m'a soutenue pendant toute ma plainte. Et donc, le jour ensuite où il a su que j'avais porté plainte, il m'a dit, et je m'en souviens comme si c'était hier, « Amandine, je t'en supplie, enlève ta plainte. Je reconnais toutes les erreurs que j'ai faites. Je suis allée beaucoup trop loin. Je ferai tout ce que tu me demandes. » Donc, je n'ai pas cédé. Et j'ai bien fait parce que au bout d'une semaine, le commissariat de police m'appelle en me disant, vous avez une confrontation dans 2 heures.
Ouais.
Et là, pendant la première confrontation, il a tout nié. Alors là, c'est sûr que j'allais plus retirer ma plainte.
Qu'est-ce qu'il dit aux policiers ?
Il dit que c'est pas vrai. Pourtant, on avait les preuves, justement, de ces fameux SMS qu'il m'avait envoyés pendant la nuit, le jour de la plainte. Il me dit, non, c'est pas moi. Ou alors, il me dit, mais pourtant, vous avez bien insulté. Ah non, mais ça, c'est pas des insultes. Et il niait, il m'a dit « Oui, mais Amandine était folle de moi, c'est elle, moi j'ai rien à voir, je l'ai repoussée. » Plus d'autres choses, par exemple, que si il me demandait d'aller me changer, c'est parce que j'avais un manque d'hygiène, que je me lavais pas, que c'était pour l'image de la société, enfin des trucs mais horribles.
Ouais.
Et ensuite, il me dit que j'ai eu un problème avec mes parents, que mon père m'avait fait des attouchements sexuels.
Il dit ça aux policiers ?
Il dit ça aux policiers. Et après, il le redit parce que ça m'a valu d'avoir un suivi, pour...
Une expertise.
Une expertise, deux expertises psychiatriques, pour voir si oui ou non... Mon père, mais c'est une insulte pour moi.
Mais c'est ignoble.
C'est ignoble. Vous aimez votre père, vous imaginez ce qu'on dit sur des choses qui sont fausses, complètement fausses. Alors, j'étais déjà sale, mais ça m'en rendait encore plus sale.
Ouais. Après cette confrontation, vous retournez travailler, vous êtes à nouveau confronté à lui ou c'est fini ?
Non, c'est fini. Donc, avec la société, on a trouvé un arrangement à l'amiable. Ça s'est bien passé, donc j'ai pu partir.
Dans les semaines qui suivent, une information judiciaire est ouverte. Les enquêteurs s'aperçoivent alors que 2 autres plaintes ont déjà été déposées contre cet homme. Parmi les victimes, il y a Emma.
Du coup, t'es repartie à cause de ça en Italie.
Oui. Et c'est mieux parce que personne ne le connaît. Je ne vis pas en tant que stress que je pense que je vais le voir.
D'origine britannique, Emma vit aujourd'hui en Italie et a bien voulu nous rejoindre pour témoigner aux côtés d'Amandine. En 2011, la jeune femme est elle aussi stagiaire dans la même société. Un soir, le patron lui propose de passer chez lui pour finaliser son rapport de stage et l'invite à dîner. Emma accepte sans méfiance.
Donc on arrive chez lui, je m'installe avec mon ordinateur dans le jardin. Il m'a servi quelque chose à boire et m'a dit « Ok, je vais me mettre en cuisine » parce qu'il allait faire le dîner. Et, mais en fait, la première chose qu'il fait, il va dans sa chambre pour faire la douche. Et il arrive, en fait, son jardin, c'est évidemment au rez-de-chaussée, et lui arrive à son étage, mais seulement en petite serviette, en disant « Mais Emma, est-ce que tu veux faire la douche ?» Parce qu'il est tellement bien. Et il dit « Non, 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 c'est bon, j'ai pas besoin de faire la douche, je vais le faire quand je rentre chez moi. » Je suis ici pour faire mon rapport de stage. Et donc, on mange l'entrée, le plat. Et le problème, c'est que je m'endors avant le dessert, sous le canapé, dans son jardin. Et je crois qu'on était vers 10 heures le soir. Et je me réveille à minuit avec lui. Bah, il a dégrafé mon soutien-gorge, il relevait ma jupe. Et bah, je me suis réveillée parce que c'était sa barbe qui frottait. Bah, il me léchait sur la culotte. Et il s'est mis nu, il était en érection. Et bah, moi, je me suis réveillée, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et donc, il s'est relevé, il m'a dit, mais Emma, viens avec moi au lit. J'ai dit, bah, non, c'est hors de question, mais qu'est-ce que tu faisais? Il a dit, Emma, tu as la voix d'une petite fille, il faut que tu viennes avec moi au lit. Je dis, non. Il s'est remis son boxeur. Entre-temps, j'ai pris mon sac à main et je suis partie.
Vous étiez dans quel état à ce moment-là? Parce que
ça... Mal.
Ouais.
C'est pas mon habitude de m'endormir. C'est très bizarre.
Est-ce qu'il a été évoqué durant le procès?
Oui.
L'hypothèse qu'il ait pu mettre ben voilà, un somnifère, un tranquillisant dans votre verre?
C'est possible, mais j'ai pas les preuves. Je sais pas. Suite à ça, je passe des journées où je pleure. Je pense que je rentre presque pas chez moi. Et j'avais une amie qui était avocat. Je me dis, OK, well, qu'est-ce que je fais? Et il dit, OK, bon, déjà, essaie de voir avec les autres directeurs. Donc, oui, en fait, il y a 3 sociétés dans le même groupe. Donc, j'ai eu mon entretien avec cet autre directeur. Il m'a dit, ah ouais, je suis désolée d'entendre ça. En fait, avant toi, il y a eu un défilé de filles dans mon bureau qui m'ont raconté la même chose.
Oui.
Voilà, que lui, il ne pouvait rien faire. Et donc, Emma, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on veut te garder dans la société, mais on va essayer de faire en sorte que tu ne réponds plus au téléphone quand ce monsieur appelle, que quand il vient dans nos bureaux pour faire les dégustations, que moi, je pourrais rester à la maison, travailler à la maison, en fait, de me cacher.
Incroyable.
Effectivement. Donc lui, il se balade, il se promène comme si c'est le roi de tout le monde. Et moi, parce que moi, je n'ai pas envie de le voir, je reste à la maison.
Et finalement, ça traduit que dans cette société, on est en train de banaliser complètement ces comportements de harcèlement.
Ouais. Il considère que c'est lui qui rapporte les sous pour la société. Donc, il ne faut surtout pas le perdre.
Ouais. Mm-hmm.
Mais donc, qu'est-ce qui vous a décidé à porter plainte?
Je pense que si je sentais... J'ai senti une injustice au sein de la société aussi.
Ouais.
Je voulais que...
Qu'il paye.
Ouais. Ouais. Et que ce n'est pas moi qui dois me cacher, rester à la maison, démissionner, etc., etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
La procédure judiciaire est lancée, mais le procès n'aura lieu que 5 ans plus tard. 5 années interminables pour les jeunes femmes, toutes les deux très fragilisées par cette histoire et par l'emprise que l'homme exerçait sur elles.
Il y a toute cette humiliation, cette horreur qui se transforme déjà en cauchemar tous les soirs, où même si l'histoire est finie, j'ai porté ma plainte, ça me revient, ça me hante. Mmh. Ensuite, je suis tellement crispée que ça s'est terminé avec 2 hernies discales, donc je ne pouvais plus bouger. Et psychologiquement, moi, il y a des quartiers à Paris où je n'osais même plus mettre les pieds parce que j'avais trop peur de le croiser. Donc, Paris était devenu partout malsain pour moi.
Cet homme continuait en plus à nier et à, et à vous, comme on dit dans le jargon, à vous charger.
À nous charger et nous envoyer une réputation encore pire. Ah bah oui, Amandine, elle a couché avec tous les fournisseurs, tous les vignerons, tous les voisins, tous les restaurateurs. Non mais moi, je suis Marie, couche-toi là. Hein. Donc moi, j'osais plus aller dans ces milieux-là que je fréquentais avant. Mmh.
Vous aussi, Emma?
Ben moi, j'avais essayé de continuer en France, ouais. Et il est devenu impossible. Il a un couple d'amis qui le soutiennent encore.
Ouais.
Lors des dégustations, même quelques années après la plainte, des producteurs me disent « Ah oui, moi, je te connais, connasse. Tu es la pute qui a dormi avec lui. » Et je te connais.
Des vignerons.
Ouais.
C'est à cause de cette réputation et de ces rumeurs qu'Emma est finalement partie continuer sa carrière en Italie. En juillet 2017, le procès a enfin lieu. L'homme est condamné pour harcèlement moral, sexuel et pour agression sexuelle. C'est Maître Tric qui a défendu Amandine et Emma lors de ce procès.
Et vous avez eu des messages de soutien des gens qui, après le procès, se sont manifestés
Mais en même temps, ce que j'aurais aimé, c'est que ces messages de soutien arrivent avant, pas après.
Oui.
Avant,
mais c'est toujours plus facile à dire après la condamnation du soutien, et, mais pendant, rien du tout, à part la hypocrisie.
Maître Tric est membre de l'association Avocats Femmes et Violences. Elle connaît bien ce genre d'affaires qui aboutissent rarement à des condamnations, faute de preuves et de témoins directs.
Le problème, c'est la preuve, hein, c'est la parole au départ, c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre, l'agresseur. Et puis, c'est à la victime à prouver, hein, aidée en cela par l'enquête de police, mais à prouver qu'elle dit vrai, hein, et qu'il est vraiment agresseur, parce qu'en général, ce qui était le cas d'ailleurs dans l'espèce, l'agresseur nie complètement. Donc évidemment, plus elles sont nombreuses à avoir été agressées par le même individu avec le même mode opératoire, la même manière de faire, toucher les cuisses, les seins, les fesses, etc. Enfin bref, plus évidemment, ça, leur propos devient est vrai, crédible.
Ouais. Vous avez été surprise, Maître Tric, par l'esprit général qui entourait la mentalité de ce milieu, c'est-à-dire Amandine, comme Emma, nous ont souvent dit que une petite claque aux fesses, un petit mot grossier ou une allusion un peu sexiste, ça faisait partie du milieu.
Ouais, c'est ce qui ressort en effet du dossier, c'est-à-dire de la quasi-totalité des témoignages. En effet, il y a une banalisation complète de ce genre de faits, hein, mm-hmm. Et des faits et parce qu'on est dans le milieu du vin, alors ici banalisé complètement. Il y en a même un qui a dit, ça fait des siècles que c'est comme ça. Bon, ben voilà. Enfin, en effet. Hein. Par contre, quand même, la quasi-totalité des témoignages confirmait ce caractère despotique, tyrannique, hein, et puis agresseur sexuel de ce patron. Hein. Certains l'excusaient en banalisant complètement. Mmh. Et une petite minorité a aussi dit « on travaille, on ne peut rien dire. »
Bien sûr.
On travaille toujours sur place. Et ça veut tout dire.
La peur de perdre son emploi.
Bien sûr. Mmh. Bien sûr.
La première fois que vous avez vu l'agresseur, quelle attitude avait-il en confrontation ?
Ah, il avait une attitude assez odieuse et assez insolente, de toute puissance et surpuissance. On est à la fois vraiment dans du harcèlement sexuel et dans du harcèlement moral, hein, et vraiment, c'est le type, non, toute sa puissance, je suis le patron, je suis le chef, et il l'a été, enfin, il l'a été jusqu'au bout. Il l'a été chez le juge d'instruction, hein, assez odieux, et il l'a été d'ailleurs au tribunal. Hein, sa manière de se comporter a, je pense, fait énormément contre lui, parce qu'on voyait bien qu'il était dans le déni, incapable deux minutes de se remettre en question.
Vous voulez dire par là que finalement, il trouvait normal la manière dont il agissait ?
Oui, il sous-estimait ça complètement. Non, mais c'est pas grave, des mains aux fesses.
Finalement, cet agresseur, il a quand même été condamné de manière assez sérieuse. Hein,
tout à fait.
Un an avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve. Avec une obligation de se soigner, et puis des indemnités à payer à chacune d'entre vous. C'est quand même une condamnation qui a aussi débouché sur sa mise à pied et son licenciement. Hein. Ça a été une satisfaction pour vous qu'il y ait eu cette peine et qu'elle ait entraîné aussi ça ?
De savoir qu'il n'y travaille plus, ouais. C'était vraiment une belle chose. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, OK, enfin. Parce que ce n'était pas tout de suite après les jugements. Hein.
Ouais.
Ils ont laissé passer 2 ou 3 mois avant de le licencier officiellement. Et on avait un peu peur qu'ils allaient pouvoir s'en sortir, le tenir d'une manière ou autre. Et de savoir qu'enfin, il est parti, ouais, c'était bien. Parce que ça veut dire que finalement, quelqu'un nous a écoutés dans la société.
Aujourd'hui, Amandine va mieux. Elle aussi a quitté Paris et c'est ici, en Bourgogne, qu'elle se reconstruit petit à petit. Un nouvel environnement qui lui permet de tourner la page et de redécouvrir le monde du vin autrement.
Grâce à la justice, on se retrouve propre, lavé. Donc là, c'est comme si je retrouvais un petit peu ma liberté. Hein. Je retourne dans les racines, hein, par rapport au milieu du vin.
Ça, c'était votre volonté, hein, de rester dans le milieu du vin.
Exactement. Oui.
Quelle est votre relation aux hommes aujourd'hui, en fait ? Est-ce que cet agresseur l'a abîmé, cette relation aux hommes ?
Ah, j'ai quand même toujours des doutes.
Donc je sais à quoi m'attendre. Pas sur les personnes qui m'entourent, mais maintenant je sais ce qui peut arriver. Je sais que certains hommes peuvent être mauvais. J'ai toujours, comme une alarme qui sonne automatiquement où je me doute que celui-là, c'est quelqu'un de pas bon. Donc je sais me protéger, je sais qu'il faut l'éviter, que c'est quelqu'un de malsain.
Vous avez confiance en vous aujourd'hui ?
Tout va bien, je suis très heureuse, tout se passe bien dans la vie professionnelle, j'avance chaque année et j'avance avec plaisir. Je peux enfin profiter.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.